Alors, François, une bonne question à se poser avant de commettre une bévue, une gaffe.
Oui, une gaffe. Est-ce que vous avez déjà faire une demande de prêt et avoir menti?
Avoir menti pour obtenir soit un prêt hypothécaire, un prêt personnel, une marge de crédit.
Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui ça doit être oui pour bien des gens là, parce que les fraudes, parce que ça constitue une fraude hypothécaire, là. Ce genre de délit là, c'est-à-dire, puis c'est surtout les travailleurs autonomes qui vont faire ça là, c'est-à-dire que ils dévoileront pas nécessairement tout l'argent qu'ils vont gagner dans une année au fisc pour payer le minimum d'impôts possible, mais quand tu viens pour faire ta demande d'hypothèque avec les preuves de revenus que t'as sur ta déclaration de revenus, parfois c'est pas assez. Alors pour obtenir un prêt hypothécaire, donc tu vas mentir, tu mens soit au fisc ou soit tu mens à celui qui va te faire un prêt hypothécaire. Mais ça devient une fraude hypothécaire qui risque d'être extrêmement grave et ça peut vous causer de très, très sérieux problèmes. C'est peut-être moins grave ici au Québec qu'en Ontario parce que le sondage d'Equifax démontre que 67% des demandes frauduleuses sont arrivées en Ontario. Et partout au Canada, là, 67% en Ontario.
Mais quand on dit mentir, c'est quoi sur, par exemple, le revenu, la capacité d'emprunt?
Sur ta capacité d'emprunt, c'est toujours calculé à partir de ton revenu brut, parce qu'il faut faire les ratios, les fameux ratios pour être capable, les ratios d'endettement. Là, il y en a deux, entre autres, le ratio sur l'amortissement brut de la dette, c'est-à-dire tu calcules toute ta dette, et il faut que ce ratio-là se situe entre 32 et 39%. Alors, donc, c'est ta capacité de payer, ça, au cours de l'année. Et on va calculer l'emprunt à laquelle tu auras droit à partir de ce ratio-là, ce ratio d'endettement-là. Alors, si tu n'as pas assez de revenus pour un prêt hypothécaire, par exemple, de 200 000 $ là que tu te dis, bon, ben si le ratio dit ça te prend 68 000 $ pour un emprunt, puis que tu l'as pas, puis que tu mens sur ça, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Et ce sont les jeunes. Et le sondage d'Equifax, c'est pour ça que j'en parle ce matin, c'est surtout les jeunes de 20 à 30 ans, la génération Y, qui se disent, c'est pas bien grave, ça, de faire, c'est acceptable de mentir pour être capable d'obtenir un prêt. Ça commence à être inquiétant, sérieusement. Parce que la conséquence est la suivante. Non seulement, ça constitue un acte criminel, mais au surplus, si jamais la banque s'aperçoit que vous avez fait une demande et que vous avez obtenu un prêt de façon frauduleuse, vous risquez de voir la banque arriver puis dire, monsieur, excusez-nous, c'est parce que vous avez fraudé. On rappelle votre prêt et vous devez le rembourser immédiatement. Ça veut c'est qu'est-ce que ça veut dire? Tu perds ta maison et en plus ta cote de crédit. C'est comme si tu faisais faillite.
Oui,
t'as plus de cote de crédit. Aïe aïe.
Mais le premier choc vient du remboursement immédiat d'une énorme dette.
Oui, et là, c'est parce que là, tu perds tout, là. Tu perds ta maison, tu perds tout, là. C'est certain que si tu as fait une fraude, tu pourras pas aller à l'autre banque dire, regarde, c'est parce que faudrait que je rembourse ma banque pour être capable. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être pas dit la vérité. Non, on te prête plus. Alors donc, là, les prêts hypothécaires par la suite, là, vous risquez ça va prendre beaucoup de temps avant que vous soyez capable de ravoir un prêt hypothécaire, si jamais un jour vous êtes capable d'en avoir un, parce que vous allez être étiqueté fraudeur. Alors faites très attention à ça. Bon. C'est extrêmement important de dire la vérité, et particulièrement les travailleurs autonomes. N'exagérez pas, parce que la façon de le faire, là, c'est qu'ils disent, si par exemple au fisc, vous avez déclaré 58 000 $ mais en réalité, vous en avez fait 68, là, vous arrivez avec des fausses factures là, pour prouver à la banque, parce que là, il faut prouver au cours des deux dernières années que vous avez fait réellement les revenus pour être capable de faire l'emprunt.
Là, vous embarquez dans du trouble.
Non, c'est puis ça se fait. C'est ça qui est le pire, c'est que les gens le font. Alors, donc, ne le faites pas, c'est vous rendre un très, très mauvais service de faire ça.
30 secondes pour parler de l'éducation financière, ça peut se transmettre en famille, ça commence en fait en famille.
Oui, tout à fait. Faut apprendre aux enfants d'abord à épargner, à dépenser pour soi, mais aussi à être capable de gâter les autres. Faites des petits potes, là, faites deux, trois petits potes. Un pour l'épargne, l'autre pour dire, garde ça, tu penses à toi, puis ça va là-dedans. Et d'autre part, une fois de temps en temps, il va falloir que tu payes des gâteries aux autres aussi. Leur apprendre à rendre des comptes aussi, parce que si tu donnes de l'argent à ton enfant, faut que tu te dises, ben là, il va falloir que tu me dises exactement ce que tu as fait avec cet argent-là. Et apprendre aussi à refuser. C'est-à-dire, à chaque fois, tu sais, Paul, nous autres, de temps à autre, on va dans les magasins pour se dire, ah, ça, cette guitare-là, ou ça, c'est ce gadget électronique-là, ou encore, je sais pas moi, un gros VR d'un demi-million de dollars, Paul, t'aimerais ça certainement. Alors, ça veut pas dire nécessairement que parce que tu es allé le visiter, que tu vas l'acheter. Alors, les enfants doivent apprendre aussi à se refuser de temps en temps, puis donner leur droit à l'erreur, c'est-à-dire, s'ils font de mauvaises dépenses, montrez-leur qu'ils ont fait de mauvaises dépenses, mais laissez-les faire de temps à autre pour leur apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. L'expérience, c'est la somme de nos erreurs.
Merci beaucoup, François, et bonne semaine. Plaisir.